Concret, ben, ce que fait Mobile Street Public avec Azure et avec un cas un peu plus pratique qui est l'application Windows 8. Donc, brief élément sur la société Mobile Street Public, c'est une start-up qui fait des applications, qui est basée à Bordeaux. Aujourd'hui, on est 18. Et ce qui est intéressant pour ici, c'est l'équipe technique. Il y a 7 personnes, on va dire 3 personnes sur le développement de la petite cliente. 3 personnes sur le serveur et quelqu'un qui fait un peu chef de projet, en fait, c'est ça. Voilà. Notre activité, c'est le développement d'applications d'actualité, enfin, qui présentent des news. Et donc aujourd'hui, on est disponible partout dans le monde. On gère 5 langues et plein de pays. J'ai mis quelques chiffres pour vous montrer où on en est. On a plus de 4 millions de téléchargements par d'application, 100 millions de pages vues par mois. Donc voilà, ça c'est où on en est aujourd'hui. Donc c'est quelque chose qu'on a lancé il y a 1 an et demi, ces derniers produits sur de la news. Donc c'est plutôt encourageant. Notre portefeuille d'applications aujourd'hui, News Republic, c'est une application de news généraliste, Happy Geek plus high-tech. Glam Life plus People et Sports République, hein, c'est une exclusivité. Parce que ça sort d'ici, on va dire, 15 jours. Niveau plateforme, donc on est vraiment dans le développement de l'application. Donc on a, enfin, pas de version, je vais dire, web classique. C'est vraiment que des applications et on est disponible sur toutes les plateformes Android, iPhone et plus récemment Windows 8 avec News Republic, Windows Phone aussi, où vous trouverez News Republic dessus, et je crois que c'est tout. Donc je vous invite en tout cas à aller sur vos téléphones, j'imagine que vous en avez tout ça, et à télécharger vos applications, vous verrez mieux de quoi il s'agit. Donc là, on a un schéma qui présente plein de choses et qui présente en fait la plateforme serveur. Si j'étais assez clair dans ma première explication, donc on fait de la news et donc on est associé à des fournisseurs de contenu qui vont nous donner du contenu. Peut-être laisser parler Marc là-dessus parce que c'est lui qui est en charge de ça.
Ouais, rapidement, on a des partenariats avec beaucoup de médias, ceux qui étaient listés dans la slide précédente. Donc ça va de des gens comme Gizmodo, Journal du Geek pour l'application Happy Geek. On a aussi des médias plus traditionnels comme Europe 1, Le Parisien, Voix à l'étranger, Associated Press, Effet, etc. Et donc tous ces gens-là, ils nous fournissent leur contenu d'actualité via divers flux, généralement XML. Et donc la plateforme de serveur, tout ce qu'elle fait, c'est ingérer tout ce contenu, voilà, le mettre au bon format et ensuite le traiter, réaliser différents traitements sur le contenu et ensuite le mettre à disposition dans le cloud pour qu'il puisse être distribué aux applications clientes.
Ouais, parce que donc on a une plateforme serveur qui est vraiment un backend qui permet l'intégration du contenu et un front-end qui est vraiment la plateforme qui va être utilisée par les applications clientes. Le back-end, donc il est on-premise chez un hébergeur à Paris, classique. Et le front-end, lui, il est presque entièrement hébergé sur Azure. Il y a juste l'hébergement des vidéos qui est sous-traité à une compagnie dont c'est le métier. Et tout le reste, c'est vraiment dans Azure. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'on va voir dans les slides suivantes justement tous les services Azure que l'on utilise. Quoi. Ici, il y a la liste de toutes les fonctionnalités Azure que l'on utilise. Azure, c'est beaucoup de choses. Là, on utilise voilà. 5 produits de cette plateforme-là. Il y en a quelques-uns en plus. Mais là, quand même, on a une bonne idée je pense, des solutions principales qui sont proposés par Azure. Le premier point, par exemple, c'est les web roles. En fait, c'est...
ça correspond à un 2IS.
Ouais. Ça correspond à un serveur, donc vous allez utiliser le serveur HTTP, enfin 2IS. Et donc aujourd'hui, ça nous sert pour l'API et aussi délivrer les images. Les worker roles, c'est toi qui l'as fait juste avant.
Les worker roles, c'est un peu comme des tâches en arrière-plan. Donc c'est un process qui est lancé, qui tourne sur un serveur, même si que peut tourner sur un serveur Windows classique. Nous on l'utilise pour certaines tâches qui sont pas forcément, qui sont tout ce qui est autre que servir du contenu via HTTP. Donc par exemple pour envoyer des messages push sur les plateformes iOS, si besoin de se connecter à un serveur Apple. Ça c'est pas du contenu HTTP, c'est juste un programme qui s'exécute. Donc on utilise un worker role pour exécuter ce programme. Ouais.
Enfin, Azure vous met à disposition des machines en gros sur lesquelles vous pouvez exécuter des process.
Soit les process web, des IS. Ouais.
Le CDN, c'est je pense que ça veut dire Content Delivery Network. C'est un service qui vous permet de mettre à disposition du contenu plus statique, on va dire. Enfin, de toute façon, c'est un CDN. Si, je ne sais pas ce que c'est, mais...
Il y a d'autres solutions, voilà.
Ouais, non, mais j'allais citer par Akamai, puisque c'est un des gros. Ben, voilà. C'est la même chose, mais sur Azure. Est-ce que l'Azure, ben, ça, c'est des bases de données? Parce qu'on a besoin de bases de données pour faire tourner le service. Et la partie storage, là, c'est quelque chose d'un peu plus... Enfin, c'est différent. En gros, c'est un service qui vous permet simplement d'héberger des fichiers.
Ouais, parce que comme un serveur de fichiers dont les éléments sont accessibles en HTTP.
Et dont on se sert aujourd'hui voilà, pour stocker les images. Et j'ai mis diagnostic, c'est-à-dire des logs de IS, ce genre de choses qu'on exploite derrière pour monitorer la plateforme. Alors le cas précis de Windows 8, on a pris Windows 8, mais quelque part toutes nos applications fonctionnent un peu sous le même principe. L'interfaçage en fait, donc on a un monde applicatif, donc on a un front-end. Des serveurs 2IS qui expose une API et donc qui va fournir du contenu au format XML. Et donc on a une liste de services, j'en ai listé quelques-uns, mais getconfig, on a essayé de faire en sorte que le nom soit un peu signifiant. Non mais getconfig, voilà, c'est pour récupérer la config. De toute façon, on va les prendre derrière. Mais voilà, mais le concept du développement voilà, en mode application serveur, voilà, il passe par du XML. Certains vont utiliser du JSON. On est quand même voilà, dans un mode comme ça. On a choisi XML. Alors, on a pris quelques cas un peu spéciaux. On s'est focalisé voilà, par exemple, sur le premier lancement de l'application. Au début, j'ai parlé du fait que nos produits soient disponibles partout dans le monde. Le gros avantage que nous a apporté Azure là-dessus, c'est que vous l'avez peut-être vu dans le schéma, mais on utilise aujourd'hui deux plateformes d'hébergement. Une en Europe et une autre aux US. L'objectif derrière ça, c'est que bah, quand vous êtes un utilisateur américain, il vaut mieux que vous vous connectiez au serveur aux US et en Europe, il vaut mieux se connecter en Europe.
Surtout sur les applications mobiles, on attend leur activité.
Voilà. C'est pas du genre en ligne non plus, mais voilà. Le lag, ça compte un peu, et donc voilà, on essaye d'être au plus près des utilisateurs. Alors, On n'a pas de système voilà, de load balancing DNS qui vont gérer ce reroutage des utilisateurs vers une plateforme ou l'autre. À notre connaissance, sur Azure, c'est pas quelque chose qui existe, en tout cas qui n'existait pas il y a 2 ans, donc on pourrait peut-être se poser la question, mais c'est pas un service qui est proposé. Donc on a mis en place un système qui est finalement très simple, qui est que, là on parlait du produit lancement, c'est un peu la même chose au lancement suivant, on appelle en fait une URL qui est pré-embarquée dans l'application, en l'occurrence qui tape toujours en Europe, et qui en fonction des données de l'utilisateur, donc ça va être, je vais lister là, l'IP, l'asset language, MCC c'est le Mobile Country Code, donc ça c'est une information qui est des fois disponible sur les téléphones, iPhone vous l'aurez jamais, mais voilà, certains OS vont vous permettre d'avoir accès à ça. Et donc en fonction de ces données-là, ben, on va rediriger l'utilisateur vers la plateforme Europe ou US. Donc c'est comme ça qu'on a géré la problématique. J'ai mis en bas un conseil qui est que quand vous créez un service sur Azure, ben, on vous donne une URL qui est celle sur laquelle pointe le service. Donc c'est des URL en quelque chose.cloudapp.net. Un petit conseil, c'est de ne jamais utiliser ces URL directement dans vos applications. Parce que dans le monde applicatif, quand l'URL est embarquée dans l'app, ben, vous ne pouvez jamais plus la changer. Et si, par malheur, il y a un service qui ne répond pas, que vous voulez rediriger les clients vers une autre plateforme, si vous passez au moins par un domaine dont vous gérez, que vous gérez, bon, voilà, vous allez pouvoir faire quelque chose. Donc ça nous est déjà arrivé. Voilà, donc, on a déjà redirigé par exemple le trafic Europe vers la plateforme US, et en fait on aurait été bien content d'avoir mis en place ces domaines-là, ce qu'on n'avait pas fait, c'est un peu fainéant. Et voilà, donc ça c'est un conseil, c'est toujours passer par des domaines que vous gérez.
Aujourd'hui, on a dans l'application l'URL qui est embarquée, c'est l'URL qui pointe vers le domaine intermédiaire qu'on a créé, qu'on gère. Ouais. Et nous, dans la gestion de ce domaine intermédiaire, on fait pointer ce domaine directement vers
l'URL qui pointe vers Azure. Donc ça, c'est le premier lancement et donc la façon dont on a géré quelque part le load balancing DNS, c'est bien normal. Le load balancing géographique, on l'a géré comme ça. Donc, si jamais vous êtes confronté au même problème, voilà, c'est une des solutions simples pour faire ça. Une spécificité de Windows 8, voilà, les background tasks. C'est un peu la même chose sur Windows Phone. C'est aussi la même chose sur Android. Voilà, on peut faire, on peut exécuter des bouts de code en tâche de fond. Et donc voilà la façon dont on a géré ça sur Windows 8, c'est que toutes les 30 minutes, le client appelle voilà le service qui permet de créer la MPF, je pense. On n'a pas créé un service dédié. Et ça met à jour les tuiles sur la page de démarrage de Windows 8. Voilà, ça me permet aussi d'envoyer des breaking news à nos utilisateurs. Donc voilà, on a géré ça de manière très simple sur Windows 8 et sur Windows 10, ça marche de la même façon. Là, c'est sur les images. La nuit, c'est du texte, des images, donc de la vidéo. La vidéo, je vous ai dit, c'est pas sur Azure. Mais pour les images, la façon dont on a géré ça, c'est que, donc sur Azure, vous avez ce qu'on appelle des blobs qui permettent de stocker des fichiers. Et donc on a pris le parti de récupérer systématiquement toutes les URL des articles qu'on nous donne, donc quel que soit le fournisseur de contenu, et on stocke ça de manière intermédiaire dans des blogs. On a aussi bâti donc un service web très simple, à qui on passe l'URL d'une image, une hauteur, une largeur, et à la volée, il redimensionne le média. Alors pourquoi on les a pas pré-générés, c'est que on propose un service qui part de téléphone avec de petits écrans jusqu'à des tablettes Windows 8 ou même on est sur la télé par exemple. Là donc on aurait une somme de tailles différentes à générer, au final, on fait en direct, en live, sachant aussi qu'on est dans l'actualité. Il se trouve que au bout de 3-4 jours, cette actualité, elle a des fois un peu moins de valeur, et du coup, elle est moins affichée aussi. Donc, un service temps réel, c'est suffisant. Surtout que là-dessus, on a activé très récemment, cette semaine, le CDN Azure. Donc j'aurais pu peut-être partager presque mon écran, mais, parce que il faut voir ça. C'est quand même très simple à mettre en place. Vous avez un service web qui délivre, par exemple, des images. Activer le CDN sur ce service-là, c'est 3 clics. En fait, ça prend en option l'URL du service, et ça vous donne une nouvelle URL qui est en gros une version en cache du service que vous avez passé. Pas si c'est clair, mais vous avez juste à tester, c'est vraiment très simple. Et ça nous a permis en une demi-heure de mettre en place une version cache, on va dire, distribuée au niveau mondial par Microsoft, parce que je crois que le CDN Azure, c'est 24 nœuds dans le monde, donc qui vont stocker nos images en local, sur chacun de ces 24 nœuds, et ça nous permet à nous de pouvoir limiter le nombre de requêtes sur nos instances Azure. Si j'avais donné quelques chiffres au début, pour vous en donner un autre, le service Azure, aujourd'hui, c'est à peu près 500 requêtes à la seconde entre XML et images, c'est à peu près ce que reçoit la plateforme Mobile République aujourd'hui. Donc 500 requêtes à la seconde, c'est à la fois... Pour nous, c'est déjà pas mal. Et du coup, avec un CDN par-dessus ça, on réduit quand même la charge sur les serveurs. C'est censé être aussi plus rapide pour l'utilisateur, parce que on a deux plateformes Azure, mais il y a 24 nœuds CDN, donc normalement, il devrait accéder plus vite aux images. Et je vous mettais aussi, pareil, un conseil, c'est de mettre les paramètres dans les URL passées par vos applications toujours dans le même ordre, parce que l'URL complète, ça va être la clé de cache dans le CDN. Donc,
oui, s'il y a une application qui envoie largeur puis hauteur, et l'autre qui est centrale, il y aura des images générales.
Donc, quand vous avez une équipe de développeurs, qui font pour l'un la version Android, pour l'autre la version iPhone, il faut juste aller voir un moment pour aller. Est-ce que tu es bien sûr que tu as mis dans le même ordre que ton copain d'à côté? Voilà, comme ça vous évite de... le CDN sera plus performant au final, parce qu'il ne mettra pas deux fois en cache la même image quelque part. Le dernier point, on utilise déjà beaucoup de fonctionnalités d'Azure. On en a fait la liste là et on a montré à quoi ça nous servait. De ce qui reste du catalogue Azure. Ils nous manquent pas grand-chose. Mais il y en a un, par exemple, c'est bien distribué. C'est pour ça que j'en parlais, parce qu'on est vraiment, enfin, on n'a pas. Aujourd'hui, je n'ai pas regardé exactement si on a le mettre en place dans la journée. Mais c'est quelque chose qu'on peut étudier, parce que on a, par exemple, en Europe, quatre frontaux. Chaque serveur va mettre en local les valeurs de cache. Donc si vous avez 4 serveurs, ils vont faire 4 fois la requête pour récupérer, par exemple, tous les articles de la home page. Et ils vont mettre en local la valeur de cache. Un cache distribué, ben, voilà, ça nous permettrait voilà, de limiter le nombre de requêtes à SQL Azure. Et il y a aussi un ou deux cas où si vous avez un article, enfin dans les applications, vous pouvez attribuer en gros votre avis sur les articles. Et si vous donnez votre avis sur un article, c'est une donnée qui est mise quand même en cache sur les serveurs. Et du coup, en gros, le serveur qui est appelé va lui-même envoyer un message à tous les autres serveurs. De la plateforme pour leur dire ah ben il y a quelqu'un qui a mis je sais pas le qu'il était enfin que cet article là lui était indifférent. Voilà, donc ça avec un cache qui serait distribué donc centralisé, c'est le genre de choses qu'on n'aurait pas besoin de faire. Donc voilà, ça c'est la seule chose que ce service à jour hein, qu'on n'a pas encore mis en place et qui nous intéresse. Pour tout le reste, je pense qu'on est sur quand même pas mal de choses de la plateforme. Donc ça, c'est la plateforme d'administration d'Azure. On va, alors, tu vas bien montrer, est-ce qu'on voit le curseur?
Oui.
Ouais.
Oui, on voit.
Bon. Là, c'est quand j'avais exposé la liste des services qu'on utilisait, je crois qu'ils sont à peu près sont presque listés ici. Hosted service, c'est les web roles et les worker roles. Les storage accounts, c'est les blogs,
le stockage des blogs.
Ouais, le stockage. Et le CDN, il est ici. Donc là, on a sur cette page, voilà, je vais fermer Azure US, voilà, comme ça on voit bien. Là, on est sur les hosted services, storage, account et CDN, où on voit nos deux plateformes. Alors, on aurait pu mieux les nommer, mais...
quand on a commencé.
Et bon, Azure US, c'est la plateforme qu'on utilise aux US, et MR Azure, c'est la plateforme utilisée en Europe. Je vais déployer celle en Europe. Donc ça, c'est pas intéressant. Les pré-prod non plus. NewsRep push non plus. Je vais essayer. Alors, vous voyez qu'on en utilise. Et je vais essayer de le faire simple. On va regarder par exemple ça, c'est Front Media EU, c'est le service qui fait le resizing d'image. Donc on le voit. Vous voyez par exemple, il y a deux instances qui sont des. On peut presque me connecter en TS dessus. Hein. C'est vraiment des machines. Donc vous voyez, je peux faire un connect. Je me serais mis en TS et j'aurais eu accès à une machine. Alors c'est pas vraiment du 2008 serveur, mais ça en est très proche. Et vous auriez eu accès voilà à une machine
comme quand on est en TS.
Voilà, comme quand on est en TS sur n'importe quelle machine. Et donc ce service-là, il sert juste à resizer des images. Le Front Région 2. Alors, c'est pas celui-là qui est vraiment en prod. C'est Il est où? Ah oui, c'est celui-là. Il y en a quatre instances. Ça, c'est le service d'API qui délivre les get articles, les get home, les get session, ainsi de suite. J'ai parlé du CDN, donc je vais cliquer dessus. Vous allez voir, c'est très simple. Le CDN, il n'y en a qu'un d'activé, il est là. Donc il est sur la plateforme de resizing d'image dont j'avais parlé. C'est ça, qu'est-ce que je peux faire là-dessus? Je peux pas faire un... Bon, j'aurais pu vous faire... j'ai cliqué sur New Endpoint, comme ça vous voyez mieux de quoi il s'agit. Vous choisissez juste votre abonnement. Donc, on a deux abonnements, un aux US et un en Europe. Quel est le hosted service sur lequel vous voulez mettre en place le CDN? Hein, je vous repris France Région 2. Et là, quel est l'URL source? Là, c'est plus compliqué, mais c'est plus compliqué sans l'être. C'est-à-dire qu'en fait, quand le CDN va recevoir une requête sur, le CDN, il va vous donner une URL. www.cdn.com/i.img par exemple. Il va rerouter cette requête vers votre hosted service en prenant en gros comme source URL, ça c'est le domaine en gros Azure, slash, et là vous pouvez mettre ce que vous voulez, et slash i.img. Bon. Si j'ai jamais fait prof, je pense que c'est censé maintenant pourquoi, mais... le mieux, c'est si vous en avez besoin, vous verrez, c'est relativement simple, mais avec des réécritures quelque part d'URL chez vous, vous allez justement voir que j'ai une requête qui m'arrive sur cdn/i.img, donc je remonte ça sur mon service vers i.img par exemple, et voilà, et ça va marcher tout seul. C'est la magie du cloud. Et là, ce que je vous disais, il faut cocher ça aussi, quoi, la string, c'est si vous voulez passer au CDN des paramètres. C'est-à-dire que nous, notre i.img, par exemple, il prend en paramètre l'URL de l'image originale. Quoi. Mais, donc s'il y en a besoin, il faut l'activer.
Mais c'est la même URL, tu rajoutes les différentes fonctions à la correction.
Voilà,
il faut que la correction soit saisie dans la cache.
Parce que... si, je sais pas, vous aviez un paramètre de session dans vos URL, mais que vous savez que le contenu c'est le même quelle que soit la session, bah, il faudrait pas mettre, faudrait pas cocher cette case-là, parce que sinon vous allez mettre en cache, l'image, par exemple, par utilisateur, ce qui n'a aucun intérêt. Donc, voilà, c'est à utiliser en fonction de vos besoins. Donc ça, c'est, on a vu le CDN, on a vu le site service, on peut faire un passage sur les storage. Vous voyez là, c'est une URL statique. Bon, on voit pas grand chose en fait. C'est juste des comptes de storage. Alors ça, c'est une petite chose qui pourrait être améliorée, mais c'est vrai que pour accéder au contenu même du storage, il faut passer par une interface dédiée.
Soit par les API .NET. Soit par une autre.
Ouais, par une autre interface. Là, vous pouvez pas, j'aurais pu vous montrer que dedans, dans une user statique, par exemple, il y a des pages HTML statiques, il y a des binaires de nos applications qu'on stocke là, il y a ça c'est plus sur les autres, sur les API, diag, quelque chose, des logs de JS qui sont stockés. Enfin voilà, c'est des,
un
système de stockage de fichiers. Vous avez une espèce d'arborescence, enfin, c'est un peu plus compliqué que ça, mais voilà, il faut voir ça comme un stockage aussi. Les data les databases. Là, par exemple, ben, vous avez la liste de toutes les bases de données qu'on utilise. Donc, vous voyez, c'est pas très, très vaste. J'en ai pris une, qui peut être Frontend 4, par exemple. Voilà. Alors, SQL, je sais pas si tu veux en dire deux mots.
Rapidement, ça ressemble vraiment beaucoup à ce qu'on connaît avec SQL Server traditionnel. Il y a certaines fonctionnalités qui sont pas disponibles, notamment tout ce qui est arrivé après SQL Server 2000, c'est-à-dire le fait de pouvoir intégrer du code .NET, SSIS, des choses comme ça qui sont pas disponibles. Mais sinon, le reste, c'est très très proche de ce qu'on a dans SQL Server traditionnel. Donc, on crée des tables, procédures stockées, les vues, du code TSQL vraiment classique. Voilà, et sachant qu'il y a peut-être un concept qui diffère pas mal, c'est la gestion des bases de données. Quand on crée une base de données, on va payer en fonction de la taille qu'on lui donne. On lui donne une taille maximum. Voilà, donc j'ai plus les prix en tête, mais c'est quelques euros par mois, par exemple pour la base qu'on est en train de regarder, elle fait 1 giga maximum, ce qui est largement suffisant pour lui dans ce cas-ci. Et voilà, ça coûte quelques euros par mois, c'est moins de 10 euros. C'est passé à 5 ou 6 euros par mois.
En tout cas, c'est pas assez pour qu'on sache pas faire le prix.
Voilà, mais sinon, c'est vraiment, si on a l'habitude de travailler avec SQL Server, c'est très facile à prendre en main, très facile à prendre en SQL Azure en main.
Et puis, je pense qu'on a fait un peu le tour de... Ouais, par rapport à l'interface, DataSync, je sais même pas ce que c'est. Non, et puis le reste non plus. Donc
Encore d'autres fonctionnalités.
On va regarder. Non mais la plateforme elle évolue régulièrement, donc c'est toujours. D'habitude c'est des choses en plus. Hein. Donc il y a de nouvelles options de temps en temps, mais là.
Mais le CDN n'existait pas quand on a.
Oui, le CDN, c'est quelque chose. Le cache link, on voit là. Il n'existait pas non plus. Donc, en 2 ans, on voit que ça évolue.
C'est aussi les avantages d'une plateforme cloud, c'est-à-dire que c'est une plateforme que nous, on peut tout le temps mettre à jour, donc Microsoft, et c'est pas comme une plateforme classique, genre Windows Server, qu'on doit mettre à jour tous les 2-3 ans, qui est plutôt statique dans son développement. Donc c'est une des avantages du cloud.
Ouais, il y a effectivement, on a l'impression, des releases du SDK assez régulières, tous les trois mois, quelque chose comme ça.
Et puis, souvent, on voit qu'on ajoute des fonctionnalités une à deux fois par an. Donc voilà, on voit quand même que la plateforme évolue, vous avez toujours plus d'options, et on peut vite répondre aux problématiques de nos utilisateurs. Ouais. On a quelques questions dans la section Q&A, je vois. Donc j'ai déjà répondu partiellement. Donc il y a eu une question sur le coût, donc si vous êtes intéressé, cliquez sur Q&A et il y aura vos réponses. Et voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous allez dans le Q&A, vous posez toutes vos questions et on y répondra si on peut. Voilà. Je ne sais pas si vous avez encore quelque chose à dire, Thierry, quelque chose à montrer. Ou...
C'est vrai que la dernière question est assez pertinente sur le coup. Effectivement, la réponse est intéressante. Juste pour donner un exemple, quelque chose qui nous est arrivé, c'est que au cours de l'année dernière, il y a une de nos applications qui a été mise en avant sur le market. Le market Android, donc c'est à dire que quand les gens ouvraient leur App Store sur le téléphone Android, ils voyaient notre application qui était mise en avant, donc on a eu un pic de téléchargement pendant cette semaine-ci, et du coup on a dû redimensionner un peu la taille de la plateforme Azure et le nombre de serveurs qu'on utilisait. Et avec Azure, c'est vraiment une question de minutes, quoi. En quelques minutes, on peut doubler ou quadrupler ou rajouter autant de serveurs qu'on veut, vraiment la voler. Clairement, quand on est dans une architecture classique, on est, nos serveurs sont hébergés dans un data center et ils sont qu'à nous et on peut, voilà, rajouter des serveurs, ça peut prendre des heures, voire des jours.
Et puis voilà, quand on lance de nouvelles applications, on ne sait pas quel succès ça va avoir. Elles vont avoir. Grâce à Azure, en tout cas, on n'a pas eu besoin de se poser plein de questions sur comment faut-il dimensionner notre plateforme d'hébergement. Voilà, ça s'est fait naturellement. On lance petit, ça marche, on fait grossir, mais on ne sait pas. En tout cas, ça enlève le fait de devoir se poser cette question-là, qui est bon, mais il y a le budget à faire pour l'année prochaine. On prévoit quoi comme achat de serveur, voilà.
Et ça enlève aussi l'investissement initial qui peut être bloquant pour une start-up, quoi.
Oui, aussi, oui.
Exactement.
Acheter des machines physiques, qui sont prêts à scaler, etc. Donc ça peut être.
Ah, des machines qui servent à rien, ça décline. Hein.
On a une autre question dans le Q&A de Julien, qui veut plus de précisions sur le front-end, donc je ne sais pas exactement sur quoi il veut des précisions. Est-ce que Julien, tu peux préciser dans le Q&A de quoi tu voudrais parler?
Plutôt la partie DSIS ou la partie worker?
On va attendre un peu. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Hein.
Je sur le webroll si tu veux décrire rapidement comment ça se passe avec Visual Studio et comment on pousse l'application.
Ah oui, mais c'est quelque chose qu'on a pas vu, mais parce que là on a vu l'interface d'administration d'Azure globalement. Au quotidien, ça s'utilise de concert avec Visual Studio, en tout cas chez nous.
Il y a un SDK d'Azure.
Voilà, parce qu'il y a un SDK Azure que vous installez sur votre machine. Et qui s'intègre aussi à Visual Studio. Et
quand on crée un nouveau projet, on désigne ce projet comme un projet Azure.
Oui, on crée un projet Azure. C'est pas un projet web classique, c'est un projet Azure. Et donc après, ben, vous choisissez dedans de mettre justement des web roles ou des worker roles. Et en fonction de ça, ben, vous avez en gros un assistant de publication. Qui va vous permettre de, ben, en quelques clics, de dire ah ben ce service-là je veux le déployer sur ma plateforme North Europe et en gros à telle URL, c'est-à-dire dans notre cas par exemple newsrep2.cloud.net, combien je veux mettre de serveurs, 4, 8, 12, vous cliquez sur publier dans 99%, non, c'est ce qui est écrit, mais oui, dans 99% des cas, ça prend moins de 10 minutes. Des fois, ça prend un peu plus, mais c'est rare. Et le côté vraiment super sympa, c'est que, en fait, ça vous publie votre système sur un environnement de test, qui sont des machines qui ont été, on peut dire ça, mais réveillées pour l'occasion. Donc ils vous sont dédiés. Donc pendant un certain laps de temps, vous allez vous trouver avec une infrastructure deux fois plus grosse, en fait. Et donc, vous faites vos tests sur cet environnement qu'on venait de publier. Vous cliquez sur le bouton, bouton swap dans l'interface Azure. Et ça va, en fait, faire basculer votre environnement de test en production. Donc là, c'est plutôt... Niveau, j'imagine, du load balancer, il y a des choses qui se font. Et qui vont switcher vos environnements de test en production et ça se fait en quelques secondes.
Comme un système de pré-production, mais voilà, une fois que le code est prêt, on le pousse sur ces serveurs de pré-production qui n'étaient pas utilisés avant. Ensuite, on fait vraiment le basculement et après le serveur de pré-production, on s'en sert plus, on peut le supprimer, on l'appelle plus. Ouais.
Mais très franchement, ça paraît peut-être, pour quelqu'un qui a jamais regardé le système, ça paraît peut-être compliqué. Mais si vous prenez une heure, bon, normalement, vous devriez avoir votre site web, en tout cas un Hello World, hébergé dans Azure. Hein. C'est vraiment super simple. Enfin, le plus long, c'est limite si vous n'avez pas Visual Studio installé. C'est d'installer Visual Studio. Mais le reste, c'est super, super simple.
Ouais, on va le faire de la création de la solution. On crée une solution de type Azure une fois qu'on a installé le SDK Azure. Et après ça, on se retrouve vraiment, on est vraiment familier. Si on est familier avec l'environnement web app créé pour 2JS classique, ça y ressemble vraiment beaucoup.
Je pense que c'est bon. Après, est-ce que bon, vous avez un site web forcément?
Oui.
Plus.com si je ne me trompe pas.
Mon bah, c'est plus.com, ouais.
Alors, je vais vous mettre une page texte à tous avec tous les liens utiles. Donc le site web. Et récemment aussi, vous avez fait un enregistrement pour le bulletin Azure, qui est notre bulletin vidéo mensuel qui résume toutes les nouvelles Azure. Vous trouverez le lien à ak.ms/mobilerepublique. Donc, ça rentre un peu dans la technique aussi, vous aurez peut-être plus de démos, etc. Et ensuite, en dessous, il y a des liens donc pour Windows 8, le Consumer Preview, le Trial Windows Azure, le Toolkit Windows 8 pour Azure, parce qu'il y en a un aussi, donc qui vous aidera à implémenter des bases de notification, authentification, etc. Donc, ça peut vous aider avec des exemples, etc. Et pour d'autres webcasts, si ça vous intéresse, sur d'autres sujets, n'hésitez pas à aller sur ak.ms/webcast avec un S.
Et merci à tout le monde.
Merci à vous.
Et à bientôt.
Et voilà, si vous, donc tout ça va se poster sur YouTube, donc youtube.com/windowsazure.fr.